Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bien le bonjour à toutes et à tous. En ce mardi 27 janvier 2026, dans les nouvelles du monde sur Radio Escapade. Aujourd'hui, on va faire un bon tour d'actualité internationale en forme de spirale en partant des États-Unis, notamment de Minneapolis et de tout ce qui s'y passe en ce moment. Avec un petit coup de tour aussi par l'Iran où Trump vient d'envoyer son armada. On reviendra aussi sur la mort de El Hassen Diarra au commissariat du 20e arrondissement de Paris. Donc des violences policières aussi chez nous. La sécheresse au Kenya aussi, on en parlera, et dans toute la région. Et enfin la loi de simplification et les suppressions de ZFE avec ce vote au Parlement qui devait avoir lieu aujourd'hui. Et tout ce qu'on entend d'ailleurs, ces fameuses lois de simplification environnementale. États-Unis, donc tout d'abord avec Donald Trump qui est peut-être en train de changer de stratégie, notamment sur ce qui se passe au Minnesota suite à la mort de Alex Preti, cet infirmier de 33 ans tué par des agents fédéraux le 24 janvier. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre la porte-parole de la Maison-Blanche au cours d'un point presse à la mi-journée hier. Le décès de cet infirmier, pardon, de 37 ans, pas 33, est une tragédie, selon les mots donc, de la porte-parole de la Maison-Blanche, et le président américain ne veut pas voir de gens blessés ou tués dans les rues. C'est ce qu'a déclaré Caroline Leavitt, ce qui vient contredire en tout cas tout ce qui avait été comme réaction officielle suite au décès de cet infirmier et précédemment de René Good. Et on apprend aussi que le chef de l'ICE, donc la Immigration Control Enforcement, là, la police justement de l'immigration, donc le chef Grégory Bovino serait écarté de la ville hein, suite à la mort d'Alex Preti. Trump a dépêché sur place pour le remplacer Tom Homan, un ancien directeur lui aussi de l'ICE. D'abord, on fait un petit retour sur ce Bovino, hein, encore vous ne l'auriez pas vu passer quand même. Il faisait froid dans le dos, hein, un petit gars qui se balade avec un long manteau de cuir, hein, tout droit piqué d'une panoplie de méchants nazis dans Indiana Jones, avec la coupe de cheveux incluse. Le 7 janvier dernier, c'était lui hein, qui dirigeait l'opération à Minneapolis, au cours de laquelle un agent a abattu mortellement cette mère de famille, René Good, dans sa voiture. Quelques jours plus tard, Greg Bovino défendait aussi l'arrestation par ses agents d'un petit garçon de 5 ans, un petit bonhomme qu'on a vu pas mal aussi tourner sur les réseaux sociaux. Et il cherchait à arrêter son père. Ils se sont donc servis de ce gamin à la sortie de la maternelle comme d'un appât. « Nous sommes des experts dans la gestion des enfants », d'ailleurs, avait dit Greg Bovino, suite au scandale qu'avaient fait ces images. La semaine dernière, des images ont montré ce chef en train de lancer une cartouche de gaz irritant sur un groupe de manifestants à Minneapolis. Et malgré des vidéos hein, qui montrent les policiers ouvrir le feu sur cette maman, donc René Good, le 7 janvier et quelques semaines plus tard sur l'infirmier qui a été tué vraiment d'une balle dans la nuque sur le trottoir. Infirmier qui, selon ses propres mots, voulait changer le monde. Lui décédé donc le 24 janvier. Eh bien, Grégory Bovino défendait et justifiait coûte que coûte les méthodes de ses policiers. Par exemple, ce dimanche sur CNN, il affirmait « Les victimes sont les agents de la police des frontières et non pas donc, les personnes décédées ». C'était d'ailleurs donc aussi le discours hein, de la Maison-Blanche. Mais la Maison-Blanche, on semble qu'elle se fait un petit peu lâcher depuis peu, notamment par les grands médias, ce qui pourrait peut-être expliquer le retournement de Trump face à l'opinion publique et aussi pas mal de contextes électoraux dont je vais vous parler un petit peu après. Donc d'abord, on revient sur l'ICE à Minneapolis, cette ville du Minnesota. Des agents déployés par le président américain pour lutter contre l'immigration dans cette ville du Minnesota commenceront donc à quitter les lieux dès aujourd'hui, annoncé de son côté le maire démocrate Jacob Frey. Je continuerai, a-t-il dit sur X, à lutter pour que le reste des agents impliqués dans cette opération s'en aille aussi. A noter qu'on a appris que l'auteur du coup de feu sur l'infirmier avait été déjà déplacé de ses fonctions, mais son identité, elle, restait secrète. En tout cas, il semble que le président Trump ait renoué le dialogue avec les élus démocrates du Minnesota. La chaîne CNN indique qu'il s'est entretenu avec le gouverneur Tim Walz, un opposant férouche, hein, puisqu'il était colistier de Kamala Harris à la précédente élection. Le maire de Minneapolis a donc aussi pu échanger avec Donald Trump, estimant que la situation actuelle ne pouvait plus durer. Sur place, beaucoup espèrent donc que le départ de ce Grégory Bovino et de ses agents apaisera les tensions. Le chef de la police de Minneapolis confie attendre une désescalade dans la ville, ajoutant que certaines actions de ce responsable des douanes et de la protection des frontières, hein, donc ça c'est le poste officiel de Bovino, n'avaient pas été constructives d'après CNN. Dans le média américain The Atlantic, on va plus loin en affirmant que Grégory Bovino n'a pas seulement été éloigné de Minneapolis, mais qu'il aurait été démis de ses fonctions de commandant itinérant de la police aux frontières. Pour l'instant, cette information est démentie par le gouvernement américain. Faut dire qu'on était quand même, on n'est pas loin d'une scène de guerre civile dans certains périmètres de cette ville du Minnesota. Et pourtant, il fait moins 20 degrés, voire moins 30 à l'extérieur. Les habitants, on a pu le voir sur des vidéos, ont commencé à organiser leur autodéfense de leur quartier en faisant des rondes, armes à la main, puisqu'ils ont le droit aux États-Unis. Des barricades ont été érigées aussi pour empêcher l'accès de la police à certaines rues, faisant de fait de petits quelques blocs de ces quartiers, des zones autonomes. Comme ça avait pu être le cas aussi à Seattle quelques années auparavant, dans la foulée des mouvements d'occupation des grandes villes ou au cours des grandes manifestations qui ont lieu suite à la mort de George Floyd. Lui aussi, c'était à Minneapolis et c'était également dans les mêmes zones de la ville. Alors le nouveau gars qui a été dépêché sur place, donc il s'appelle Tom Homan, c'est l'ancien directeur de l'ICE. Il est âgé de 63 ans et on peut lire qu'il a dédié sa vie à l'expulsion d'immigrés aux États-Unis. Écoutez, chacun ses passions. Il est surnommé le tsar des frontières. Trump indique donc avec ses mouvements une intention de désamorcer une situation devenue politiquement explosive, en recentrant notamment les opérations de l'ICE, non pas contre des contrôles dans la rue, mais contre les criminels en situation irrégulière, avec notamment la mise en place d'une enquête sur la fraude massive aux aides sociales qui toucherait la communauté somalienne dans la ville. Tom Hand est sévère mais juste et il me rendra directement compte, a dit le président. Alors pour ce qui est expliqué un petit peu ces revirements, Donald Trump en ce moment fait face à des appels croissants, y compris de la part de son propre camp, pour une enquête indépendante, notamment sur l'homicide de Alex Pretty, qui était abattu froidement par la police fédérale de l'immigration à Minneapolis ce 24 janvier. Selon le Washington Post, deux audiences étaient prévues hier devant un tribunal du Minnesota avec une plainte une plainte qui vise à empêcher les autorités fédérales de détruire des preuves de cet incident, parce que visiblement ça peut arriver assez facilement, donc en portant plainte la police récupère j'imagine les scellés, et l'autre c'est une plainte dans laquelle le procureur général de l'État demande justement la fin du déploiement de ses agents fédéraux de l'immigration dans tout l'État. Preuve que le climat change, donc aussi dans les journaux nationaux, hein, pour la seconde fois en deux jours. C'est le New York Times qui a mis en couverture donc, de sa première page, des articles, des documents, des photos et des vidéos donc, sur leur site internet pour démentir la version de l'administration Trump concernant le meurtre d'Alex Pretty. Et toute la grande presse a à peu près le même ton, hein, même Fox News et la presse Murdoch, ce qui reflète et amplifie la profonde indignation de l'opinion publique contre ce second meurtre imputable à l'ICE à Minneapolis. A savoir que d'autres médias ou des pages des réseaux sociaux rappellent que l'ICE n'a pas été coupable que de deux meurtres aux États-Unis cette année, mais que les autres victimes, elles, étaient souvent des Latinos ou des Noirs. Donc là, ce sont deux personnes blanches qui travaillent, etc. Donc ça explique aussi le basculement peut-être d'une partie de la population. Cette indignation populaire, en tout cas, conduit la direction du Parti démocrate à annoncer qu'elle voterait contre une hausse des budgets, une hausse pharaonique des budgets de l'ICE. Ce vote va avoir lieu au Sénat ce 30 janvier. Et la semaine précédente, elle avait plutôt dit que, justement, elle voterait pour l'ICE. 7 députés démocrates avaient été encouragés à voter ce budget avec les Républicains, ce qui lui avait d'ailleurs permis de passer à la Chambre des représentants. Donc là, si ce 30 janvier, un échec au Sénat arrivait, ça pourrait déclencher un shutdown, puisque sans paiement, pas de salaire, et ça ferait quand même le deuxième sous la présidence Trump en seulement un an. Un shutdown, c'est une paralysie de l'État et le non-paiement des fonctionnaires ainsi que le non-paiement des agents de l'ICE, ce qui pourrait aggraver encore plus la crise actuelle du régime Trump. En plus, au niveau symbolique, c'est fort, hein, ce vote donc, au Sénat aura lieu le même jour qu'une grève générale des infirmières ce jour-là, une grève en hommage à Alex Preti, qui était aussi infirmier, hein, et contre l'ICE. Certainement, il y aura aussi de nombreuses autres grèves et manifestations massives dans tout le pays, ou des grèves générales, comme il y a pu avoir à Minneapolis la semaine dernière. Donc l'indignation générale contre l'ICE et contre Donald Trump s'est déjà traduit par la réalisation d'une grève générale, ce qui est interdit aux USA, hein, depuis 1947 quand même, et qui rappelle des années où le mouvement ouvrier américain était très fort et particulièrement dangereux pour les capitalistes. D'ailleurs, ceux-ci n'hésitaient pas à ouvrir le feu sur les grévistes. Rappelons-le, c'est l'origine de nos manifestations du 1er mai. La grève générale et l'immense manifestation qui ont lieu ce 23 janvier à Minneapolis ont marqué donc certainement un tournant qualitatif dans la situation politique du pays et du monde. Cette grève a été accompagnée par des manifestations dans 300 autres villes américaines le même jour. Et il y a eu d'autres manifestations, toujours pour exiger la dissolution de l'ICE, mais aussi avec peut-être en horizon possible une grève générale nationale pour entre autres destituer Trump à New York, Chicago, Los Angeles, Portland, Philadelphie, Dallas, Tucson ou encore ailleurs. Et tous ces appels ne s'arrêtent pas. Il semble donc qu'il y ait un mouvement populaire massif pour dégager Trump par la rue et pas par le Parti démocrate, hein, puisque celui-ci suscite assez peu de confiance aussi à sa base. Le tout bien avec en optique ces grands moments importants pour la politique qui sont les élections de mi-mandat qui vont avoir lieu en novembre de cette année. Visiblement, la Maison-Blanche vacille pour l'instant et la face du monde pourrait peut-être en être changée.
Je suppose que pour l'instant, tu te sens un peu comme Alice, tombée dans le terrier du lapin blanc.
Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu, j'essaie de comprendre, mais...
Et on continue avec la politique états-unienne et peut-être aussi la fuite en avant de Donald Trump, justement, pour tenter de balayer tout ce qu'il a devant sa porte. On ne parle même plus des dossiers Epstein. Une armada de bateaux, donc l'armada de Trump, arrive dans le golfe Persique, pas loin de l'Iran. Donc après l'arrivée au Moyen-Orient du porte-avions Abraham Lincoln et de son escorte hier, bien Téhéran met en garde les États-Unis contre une possible intervention. C'est pour faire pression sur Téhéran, hein, le pouvoir... En Iran, que Donald Trump avait annoncé jeudi dernier l'envoi d'une armada, donc à savoir ce porte-avions Abraham Lincoln avec toute son escorte, ça y est, sont arrivés au Moyen-Orient pour promouvoir la sécurité et la stabilité régionale, annoncé hier soir le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient. L'Iran met en garde donc contre une intervention américaine après le récent mouvement de contestation que le régime a réprimé dans le sang et au moment où les États-Unis renforcent leur présence dans la région avec donc l'arrivée de ce porte-avions. Donald Trump annonçait dès la semaine dernière l'envoi dans le Golfe d'une telle armada. Maintenant, la pression sur Téhéran, qu'il a plusieurs fois menacé de frapper. Mais l'Iran ne permettra pas qu'une menace à la sécurité nationale, même à ses prémices, atteigne le stade de l'action. C'est ce que martelait hier un haut responsable militaire iranien, cité par la télévision d'État. Symbole de ces tensions, les autorités iraniennes ont déployé dans le centre de la capitale Téhéran un immense panneau anti-américain qui montre justement un porte-avions ciblé par des frappes aériennes. « Qui sème le vent récolte la tempête », affirmait le slogan dessous qui est traduit en anglais. « La puissance navale de l'Iran n'est pas seulement défensive », mettait aussi en garde le commandant de la marine iranienne, Shamram Irani. Au Liban, le Hezbollah pro-iranien lui a organisé hier un rassemblement en soutien à la République islamique. Et son dirigeant, Naïm Qassem, estime qu'une guerre contre l'Iran embraserait toute la région. De leur côté, les Émirats Arabes Unis, eux qui accueillent une base aérienne américaine sur leur territoire et pas loin de l'Iran, ont déclaré qu'ils n'autoriseraient pas l'usage de leur territoire pour des attaques justement visant l'Iran. Alors que le pays reste coupé d'Internet depuis plus de 18 jours, ce travail de décompte des morts se poursuit pour le bilan de la répression. Une organisation de défense des droits humains faisait état d'un nouveau bilan de près de 6000 morts, et elle dit enquêter sur des milliers d'autres possibles décès. Le guide suprême du pouvoir en place, Ali Khamenei, est apparu, lui, pour la dernière fois en public le 17 janvier dernier, avertissant que les autorités briseraient le dos des séditieux, et depuis, Internet a été coupé, donc très peu de communications sont possibles. Selon Human Rights Activist News Agency, donc, 5848 personnes ont été tuées pendant le mouvement de contestation, dont 5520 manifestants, 77 mineurs, 209 membres des forces de sécurité et 42 passants. Cette organisation américaine examine donc 17 000 autres possibles décès et les défenseurs des droits humains mettent d'ores et déjà en garde contre un bilan qui pourrait bien être plus élevé que celui déjà confirmé. Par ailleurs, l'ONG américaine a aussi fait état d'au moins 41 300 arrestations. Le ministère iranien de la Santé exhortait hier les personnes blessées lors des manifestations à se rendre à l'hôpital pour se faire soigner, alors que justement, selon les ONG, les forces de sécurité procèdent dans ces hôpitaux à de nombreuses arrestations. Et dans le même temps, la télévision d'État diffusait ces dernières semaines au moins 240 prétendus aveux de contestataires, ce qui est une pratique dénoncée notamment par Amnesty International et les Nations Unies.
L'espoir est la base de toutes les rébellions.
Mais il n'y a aucun espoir.
Moi, je dis qu'il faut se battre.
Puisqu'on a parlé des meurtres par la police américaine, on va revenir sur le territoire français avec le meurtre de El Hassen Diarra dans le commissariat du 20e arrondissement de Paris. Dans cette affaire, l'avocat de la famille dépose plainte pour destruction de preuves. Notamment sur des images de vidéo qui ont été prises par un habitant, on voit deux policiers dont l'un donne des coups de poing en direction d'un homme plaqué au sol. Ces faits se sont déroulés dans la nuit du 15 au 16 janvier. Et donc cet homme, El Hassen Diarra, âgé de 35 ans, est mort durant sa garde à vue au commissariat du 20e arrondissement de Paris. L'avocat des proches de El Hassen Diarra annonçait hier déposer une nouvelle plainte pour destruction de preuves et il a demandé un dépaysement de l'enquête. El Hassen Diarra avait été interpellé donc dans la nuit du 15 au 16 au pied de son foyer de travailleur. Sur une vidéo tournée par un voisin, on voit deux policiers, dont l'un à genoux, qui donnent deux coups de poing en direction de l'homme qui se trouve au sol. Le parquet de Paris avait annoncé l'ouverture d'une information judiciaire pour violence volontaire ayant entraîné la mort par personne dépositaire de l'autorité publique. C'était 5 jours après les faits et 2 jours suite à une demande de l'avocat de la famille. Hier, donc, le même avocat annonçait le dépôt de cette plainte pour destruction de preuves. Il dénonce en effet l'absence d'images provenant des caméras piétons des policiers intervenus, ces petites caméras embarquées que les policiers ont sur le plastron. Le parquet avait affirmé que les caméras que doivent porter les policiers sur eux n'étaient pas fonctionnelles du fait de la décharge de leur batterie, ce qui a été vérifié par l'officier. Cette explication est techniquement impossible et suspecte, rétorque Maître Bouzerou, donc l'avocat des proches de la victime. Il relève que les batteries de ces caméras piétons sont censées fonctionner 12 heures et qu'en plus de la vidéo qui a été tournée par le voisin, d'autres témoignages confirment les violences policières. Il est permis de penser que les images des caméras piétons ont pu être détruites ou dissimulées aux enquêteurs afin d'éviter qu'elles constituent des éléments démontrant les violences commises lors de l'interpellation de mon client ou durant son transport au commissariat. Ce n'est pas l'IGPN, la police des polices, qui a fait les premiers actes d'enquête, mais les policiers du commissariat du centre de Paris, ce qui ne se justifie aucunement au vu de la qualité du policier et des personnes mises en cause. Enfin, au vu de la qualité que les personnes mises en cause sont des policiers. Donc une faille dans la procédure, c'est pourquoi il demande le dépaysement de l'affaire. Dans ce communiqué, donc, la famille dénonce aussi l'opacité persistante de la procureure de Paris, Laure Bécuo, ainsi que de la juge d'instruction qui est chargée de l'enquête. Toutes les deux refusent en effet de communiquer les vidéos et les conclusions de l'autopsie. Face à ces obstructions, la famille demande donc le dépaysement immédiat de l'enquête pour garantir son impartialité. La famille refuse que la vérité soit étouffée. La justice doit enfin agir avec transparence. Après la mort d'El Hassen Diarra, le parquet de Paris avait dans un premier temps ouvert une enquête pour rechercher les causes de la mort et demander une autopsie. Le 19 janvier, il rapportait que celle-ci n'apportait pas à ce stade de certitude sur la causalité du décès et expliquait que des examens complémentaires étaient ordonnés. Voilà une nouvelle lue dans Le Monde avec l'AFP. À noter que ce week-end, une immense manifestation de soutien et pour demander la justice dans cette affaire a eu lieu aussi sur Paris.
Allez, rembolle tout ça, mais c'était écœurant la fin.
On part maintenant dans le nord-est du Kenya où la sécheresse fait des ravages. Hein. Des mois de sécheresse ont causé une hécatombe parmi le bétail et les craintes grandissent maintenant que l'homme et notamment les enfants en soient les prochaines victimes. Bichar Maalim Mohamed raconte avoir dû brûler 130 bêtes déshydratées, toute sa fortune, afin d'éviter que les hyènes ne s'approchent trop de chez lui. « Je me retrouve sans rien, avec 4 poulets comme seul futur, s'attriste-t-il. » Cet homme de 60 ans vit à Tawakal, un village du comté aride de Mandera, qui borde la Somalie à l'est et l'Éthiopie au nord. Depuis le mois de mai, pratiquement aucune goutte de pluie n'est tombée. C'est un désastre pour les communautés locales, qui sont essentiellement pastorales et vivent donc de l'élevage. Ainsi, le seul taureau de cet homme Tawakal, qui est encore en vie, n'arrive même plus à se lever et reste allongé au même endroit depuis près d'une semaine. Les os de la bête saillent sous sa peau et son propriétaire le regarde impuissant. « Il n'y a plus d'eau, nous n'avons plus de nourriture », se lamente-t-il. « Nous sommes en danger ». Dans la grande ville voisine de Banissa, le grand bassin de rétention d'eau s'est lui aussi asséché, laissant la place à une vaste étendue stérile désormais utilisée par les enfants du village comme terrain de jeu. La ville dépend désormais d'un bassin plus petit qui est dans le village de Loulis, mais son niveau baisse lui aussi dangereusement. Des troupeaux de chèvres, de vaches et de chameaux, dont certains ont parcouru jusqu'à 30 km, se bousculent ainsi pour accéder au peu d'eau qui reste, que les autorités rationnent afin de prolonger les réserves. Aden Hussein, un habitant de ce village de Loulis, qui est interrogé par l'AFP, justement, observe que dans 2 semaines, cette eau sera finie et c'est plus de 2 millions de Kenyans, sur environ 53 millions qui peuplent le pays, qui sont confrontés à une insécurité alimentaire croissante après donc ce manque de pluie entre octobre et décembre. C'est ce qu'estime l'Autorité nationale de gestion de la sécheresse. Entre 20 et 25 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire humanitaire entre le Kenya, la Somalie et l'Éthiopie, et plus de la moitié d'entre elles à cause donc de cette sécheresse. Face à la situation, les hôpitaux du comté de Mandera sont débordés. Ainsi, dans l'hôpital de Banissa, l'afflux d'enfants gravement malnutris, dont certains viennent même d'Éthiopie, a saturé le service pédiatrie. Les cas de malnutrition augmentent d'ailleurs, car les enfants dépendaient jusque-là uniquement du lait de chèvre et de chameau, mais il n'y en a plus du tout. C'est ce que constate un nutritionniste hospitalier dans l'hôpital de Banissa. Le service pédiatrie ne dispose plus que de 8 boîtes de lait thérapeutique pour son unité, de quoi tenir donc à peine une semaine. Le service dépendait jusque-là du programme alimentaire mondial, notamment pour les suppléments alimentaires qui sont destinés aux nourrissons et aux mères allaitantes. Mais les coupes claires dans les budgets ces derniers mois dans l'aide internationale, et notamment de la part des États-Unis et de l'Union européenne, a contraint l'agence onusienne à réduire ses aides. Je vous renvoie vers le début de ces nouvelles du Monde, avec les enquêtes que Trump et l'ICE veulent mener contre les réfugiés somaliens au Minnesota. L'hôpital, lui, n'a rien reçu depuis 6 mois. Le gouvernement kényan et des organisations humanitaires comme la Croix-Rouge ont intensifié les distributions d'eau par camion, d'aide alimentaire et de transfert en espèces pour soulager les populations, mais les besoins restent immenses.
L'air pur, l'eau pure à une terre saine. De ces 3 choses, nous n'en avons plus une seule. Voilà. Et on se vante de la civilisation et du progrès. Voilà, qu'est-ce que c'est ?
On termine ces nouvelles du monde en décortiquant un petit peu ce qui se cache derrière les termes loi de simplification, avec notamment en axe la suppression possible des ZFE. Le vote au Parlement qui devait justement statuer là-dessus a été repoussé après les élections municipales. Ce projet de loi de simplification est en discussion depuis près de 2 ans. Il vise donc sur le papier à simplifier la vie administrative des entreprises et donc à faciliter l'implantation de projets industriels. Prévu aujourd'hui, ce vote final sur ce texte de loi est reporté donc de plusieurs semaines. C'est ce qu'on apprenait hier auprès de plusieurs sources parlementaires. Le gouvernement a décidé de ne le soumettre au vote qu'après donc les élections municipales du mois de mars. On va quand même regarder ce qu'il y avait dedans. C'est l'association Respire qui a notamment attaqué l'État en justice pour manquement de mesures prises en Île-de-France pour respecter les normes de qualité de l'air. Et c'est donc sur la question des ZFE, les zones à faible émission, de cette loi, que se penche cette attaque en justice. Selon Le Monde, donc, cette ONG a engagé une action de groupe pour obtenir la cessation d'un manquement devant le tribunal administratif de Paris. L'ONG Respire demande donc à la justice de reconnaître l'insuffisance des mesures prises par l'État pour assurer le respect des valeurs limites de qualité de l'air en Île-de-France, où près de 8000 décès prématurés par an, 8000 sont attribués à la pollution de l'air, selon l'Observatoire régional de santé. Cette association demande donc au juge administratif d'ordonner à l'État de prendre toutes les mesures nécessaires, dont, par exemple, faire respecter les ZFE, pour remédier à ce manquement sous 6 mois, avec une astreinte de 300 000 euros par mois de retard. On peut lire aussi dans les colonnes du journal Reporter un décryptage donc, de cet intitulé anodin, le projet de loi de simplification. Pour eux, c'est un recul écologique d'ampleur qui se joue et qui va donc se jouer au Parlement. Je vous le disais, ce texte a déjà été adopté en commission mixte paritaire. il acte et prépare donc la remise en cause de trois piliers des politiques environnementales françaises, donc les ZFE, les zones à faible émission, pour ce qui est de l'accès des véhicules dans l'ensemble des métropoles, mais aussi le zéro artificialisation nette et la compensation écologique donc des grands projets industriels. Tous ces dispositifs ont été construits ces dernières années et ils sont fragilisés au nom de la compétitivité, de la souveraineté ou bien de l'urgence économique. Par exemple, donc, ce ZAN, ce zéro artificialisation nette, c'est l'idée d'arrêter de bétonner en gros n'importe où et n'importe comment. La loi climat et résilience avait fixé un objectif clair, diviser par deux le rythme d'artificialisation entre 2021 et 2031, sur une décennie. Tout cela étant bon pour les sols, pour la biodiversité, le climat et pour les fonctions hydriques. En France, aujourd'hui, on artificialise encore entre 20 000 et 25 000 hectares par an. Ça fait presque deux fois la superficie de Paris intramuros, et ce, chaque année. Or, ces sols bétonnés, principalement des parkings ou des entrepôts, eh bien, vont stocker du carbone, réguler l'eau. Quand ils ne sont pas bétonnés, ils stockent du carbone, ils régulent l'eau, ils soutiennent l'agriculture et la biodiversité. Le texte prévoit donc peut-être d'exclure du calcul de ce zéro artificialisation net les projets d'intérêt national majeur, donc des grosses exceptions, des astérisques comme on aime bien en faire dans les lois, les textes environnementaux. Et ce projet d'intérêt national majeur est une notion très large. Ça peut inclure des projets industriels stratégiques, des infrastructures énergétiques et des projets liés à la souveraineté, donc autoroutes et autres gros entrepôts. Concrètement, des centaines de projets pourraient être exclus du calcul de l'artificialisation. Et à cela vient s'ajouter une autre disposition. Eh bien, les collectivités pourraient dépasser de 20% leur plafond autorisé avec ces dérogations. Donc l'objectif de zéro artificialisation nette d'ici 2031 devient de fait hors d'atteinte. Certaines de ces mesures pourraient en plus être aussi transférées vers un autre dispositif, encore un tour de passe-passe, qui s'appelle la proposition de loi TRACE. TRACE, ça veut dire trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux, ou quand les pouvoirs locaux justement peuvent s'opposer à des lois environnementales. Et on va revenir un petit peu vers les problématiques de lobbying dont on se fait souvent l'écho ici, par exemple dans le cas de l'A69. En tout cas, quel que soit le moyen et le véhicule législatif utilisé, on est face à une offensive globale contre ce projet de l'artificialisation nette.
Allez, rembole tout ça, mais c'était écœurant à la fin.
Allez, on termine en musique avec le décès, malheureusement, de Sly Dunbar, le fameux Sly de Sly and Robbie. Il est mort hier à l'âge de 73 ans. Ce batteur, figure clé et pilier, refondateur du reggae, l'inventeur du son Rockers, grand acolyte donc de son bassiste de compère Robbie Shakespeare, qui lui est mort en 2021. Donc Sly and Robbie, un nombre incalculable d'heures de studio à leur actif, des heures connues pour avoir créé un groove basse-batterie impeccable, inimitable dans le monde. Sly and Robbie, dans leur jeunesse, allaient très vite former d'ailleurs la section rythmique d'un groupe qui s'appelle The Revolutionaries, donc les révolutionnaires, une appellation qui en disait déjà beaucoup sur leur rapport dans la musique jamaïcaine. Et ils ont aussi accompagné en parallèle tout le développement de la culture dub. Ils travaillèrent ensemble, par exemple, sur 5 albums de Peter Tosh, pionnier du reggae. Ils formèrent leur propre label, Taxi Records. Très influencé d'ailleurs par les batteurs de soul américains, Sly Dunbar fit d'abord ses armes dans des formations de reggae et même de ska. Dès la fin des années 70, en revanche, Sly and Robbie furent partie prenante du son caractéristique des productions du label Island, l'énorme label dirigé par un Anglais de Jamaïque, Chris Blackwell, qui avait notamment découvert et publié Bob Marley. Sly and Robbie régnait en maître sur tous les disques enregistrés à Kingston, bien sûr, mais aussi dans les légendaires studios Compass Point à Nassau, aux Bahamas. C'est là, par exemple, qu'ils purent accompagner Grace Jones sur 3 de ses meilleurs albums, mais aussi Joe Cocker. En 79, ils ont joué sur le premier album reggae français de Serge Gainsbourg, Aux Armes, etc. Et puis d'ailleurs sur le second aussi, Mauvaise Nouvelle des Étoiles en 81. Et aussi, ils l'ont accompagné sur scène en tournée. Gainsbourg était d'ailleurs avec eux. Sly était sur scène avec Gainsbourg quand il a joué la javanaise et s'est fait huer par des parachutistes. C'était à Strasbourg, je crois, en 81. Sly a aussi joué sur le premier album solo de Mick Jagger et aussi sur 2 de Bob Dylan. Bref, des vétérans et incontournables de la scène. D'ailleurs, il se produisait encore régulièrement à Paris en concert, souvent au New Morning. Leur dernière apparition commune date de mars 2019. C'était avec le trompettiste norvégien Nils Peter Molvær. Voilà. Et puisqu'il fait vraiment un temps, pas sortir dehors, qu'il pleut, on va s'écouter une reprise de Bob Marley, justement, sur un album de reprise d'hommage à Bob Marley, par Sly, donc, et c'est Sun is Shining. C'est un morceau qui date de 1991 dans cette version. Dunbar qui vient donc de nous quitter. C'est sur ces petites frappes rimshot qu'on va se quitter. On se donne rendez-vous jeudi pour d'autres nouvelles du monde. Et d'ici là, portez-vous bien.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Oh, mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.